Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
La zone payante.
La deuxième semaine de la NFL commence. Quelle équipe poursuivra sur sa lancée? Les Pats et leur nouveau livre de jeu affrontent les Seahawks dimanche. On regarde les matchs de la semaine avec nos experts. Quelles sont les conséquences de l'annulation des matchs pré-saison? Le débat est lancé. Est-ce que Tom Brady aurait dû accrocher ses crampons l'an passé? Et finalement, avec nos experts, on répond à la question: qui sont les surprises et les déceptions de la première semaine dans la NFL? Bienvenue à la Zone payante, la deuxième émission de cette saison. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, très heureux de vous accueillir et je suis en compagnie de Jean Carrier, ancien entraîneur et analyste des matchs du Rouge et Or. Salut Jean.
Salut, ça va bien?
Et oui, et on est aussi en compagnie de Stéphane Cadorette, qui est expert football au Journal de Québec et de Montréal. Salut Stéphane.
Salut messieurs.
Et écoutez, enfin, hein, on va se dire là, une première journée pluvieuse et frisquette, mais les conditions étaient parfaites pour un premier dimanche de football qui ont permis à des équipes de débuter en force. On va voir qui s'en est le mieux tiré. On va revenir aussi sur la décision de la NFL d'annuler des matchs pré-saison, puis on va se poser la question: est-ce que les joueurs, même les coachs, les arbitres, puis le spectacle en a souffert? Et cette semaine, comme à toutes les semaines, on passe les matchs de la semaine. Entre autres, on parlera des Pats et Cam Newton, est-ce qu'il va aller battre les Seahawks dimanche soir, à savoir. Et on va aussi parler de Tom Brady. Il est-tu fini ou pas le beau Tom? Et bien d'autres choses, donc c'est un plaisir de se retrouver cette semaine. Hey les gars, pour commencer, donc on va revenir sur la semaine dernière. Une première semaine haute en émotion là, dans la NFL, alors que les mouvements de contestation se sont poursuivis d'est en ouest et que les joueurs ont joué devant des bancs vides. Les joueurs ont envoyé un signe d'unité. Ensuite, sur le terrain, la saison a débuté. Il faut préciser qu'il n'y a eu aucun cas de COVID quand même pour la première semaine, ce qui est une victoire en quelque sorte pour la NFL. Messieurs, quelle est selon vous l'histoire de la fin de semaine? Stéphane?
Ben, ça, en partant, ça en est une histoire. Moi, j'ai trouvé que les démonstrations d'unité, juste pour glisser deux secondes, un petit mot là-dessus, ça a été bien fait dans l'ensemble. Tu sais, j'ai pas trouvé que c'était offensant d'une quelconque manière. Les joueurs ont pas nécessairement le fait de grands scandales avec ça. Puis je trouve qu'ils ont tout à fait droit de s'exprimer. Cela étant dit, moi, l'histoire de la fin de semaine, pour aller strictement dans le football, parce que je pense que c'est ça que les gens veulent entendre quand ils nous écoutent, pour moi, c'est les Patriots, parce que c'est une toute autre identité. Tu sais, les Patriots, on est habitués, les gars, de les voir depuis 20 ans. Ça roule à peu près de la même façon. C'est une machine extrêmement huilée. C'est le supplice de la goutte de Tom Brady. Une petite passe à gauche, une petite passe à droite, une petite passe au centre. Là, c'était complètement autre chose qu'on a vu du côté des Patriots. Une équipe qui s'enligne pour être beaucoup plus physique. On est allé avec 42 courses pour 217 verges au sol. On n'a pas vu ça souvent dans l'ère Tom Brady. Il y a eu 4 porteurs de ballon qui ont touché au ballon, plus Cam Newton, qui à lui seul, le corps arrière, qui a eu 15 courses. Ça, durant toute l'ère Belichick, c'est le plus haut total de courses pour un corps arrière. Les 75 verges qui est amassé au sol. Écoute, faut remonter à Steve Grogan dans les années 80 pour voir un corps arrière qui a eu autant de courses.
T'as fait tes recherches.
Ah oui, écoute, Steve Grogan, c'est pas nécessairement une figure mythique dans l'histoire des Patriots. Là. Cam a été chercher un record à son premier match. Faut le faire. Puis en défensive, je tiens à le souligner, parce que oui, on peut parler de Cam Newton pendant une heure, mais la défensive, faut souligner qu'il y avait 5 nouveaux partants. Tu sais, c'est une défensive complètement remodelée. Tout le corps de secondeur est refait à zéro. Et puis, ça n'a pas paru nécessairement sur le terrain. Je trouvais qu'il y avait de la cohésion. Il y a eu 3 interceptions. On a limité les Dolphins à 269 verges. Pour un premier test, là, c'est réussi. Maintenant, c'est pas mal plus compliqué la tâche qui s'annonce contre les Seahawks, puis on va le voir à la longue si ce modèle-là peut tenir. Mais franchement, là, moi, j'ai été étonné de voir les Patriots. On savait là, qu'avec un corps mobile comme Cam Newton, le visage de l'offensive allait changer, mais j'étais vraiment pas certain du côté défensif, là, comment les Patriots allaient tenir leur bout. Puis force est d'admettre que des deux côtés du ballon, c'est un test qui est concluant là, pour débuter la saison.
Jean, de ton côté, c'est quoi l'histoire de la fin de semaine?
Ben pour moi, honnêtement, c'est Kyler Murray. Je me posais des questions encore. Tu sais, il y a eu une bonne première saison comme carrière des Cards d'Arizona. Mais le défi était grand. Là.
Ça a été un premier choix repêchage. Là. Les gens s'attendaient
au total,
à beaucoup.
Puis, exact. Tu sais, là, il faut se demander est-ce que c'est l'homme de la situation. Honnêtement, je pense qu'il n'y a plus aucun doute pour moi dans mon esprit. Kyler Murray est un carrière de franchise. La grande question qu'on se posait, c'est est-ce qu'avec son petit gabarit, il va être en mesure d'avoir du succès? Il est listé à 5 et 10. Je peux te dire que c'est une bonne blague. Là. Il n'est pas 5 et 10 de Kyler Murray. Là. Il frôle. Il est peut-être un petit peu plus grand que 5 et 8. 207 livres. Très trapu là, pour son gabarit, par contre. Mais ce qui fait la différence, puis écoute, quand il a joué contre les Niners, on s'entend qu'ils ont un super front défensif, les 49ers. Mais à un certain moment donné, les Niners, ils ont décidé de blitzer. Puis Kyler Murray, il est parti pour courir 22 verges touchées. Puis par la suite, ben c'est bizarre, mais on n'a plus vu beaucoup de blitz.
Ils ont commencé à le respecter.
Ben il est tellement vite que oui, il est un peu comme Lamar Jackson de ce côté-là. Je dirais pas qu'il est aussi explosif, mais il est quand même très, très rapide. Puis il va se faire respecter. Si tu veux blitzer à outrance, t'es mieux de respecter tes corridors pour le garder dans un étau parce qu'il va en profiter immédiatement.
C'est ce parlant qu'il va de, c'est parlant de respect, il y a un numéro 10 quand même qui peut viser maintenant qu'il y a cette année qu'il n'y avait pas l'an passé, qui garde la défensive en respect, le DeAndre Hopkins.
Oui, exactement. C'est sûr que c'est une très, très grosse acquisition également pour les Cards. Mais faut pas penser que c'est un coureur en premier. Kyler Murray, c'est un vrai carrière. Il est un peu dans le style Patrick Mahomes. Il veut lancer en premier, mais si tu lui donnes la course, il va en profiter tout simplement. Puis c'est un petit peu ça, moi, qui fait la différence entre lui puis Baker Mayfield jusqu'à maintenant. Baker Mayfield, tu sais, ils ont les parcours à peu près similaires. Les deux ont gagné le plus gros trophée dans la NCAA. Ils ont été le joueur de l'année, le trophée Heisman. Les deux sont allés à Oklahoma. Les deux sont des premiers choix au repêchage. Mais dans le cas de Baker Mayfield, présentement, les défensives ne le respectent pas vraiment. Ils peuvent le blitzer à outrance parce qu'ils savent qu'il n'est pas assez athlétique pour faire ce que Kyler Murray fait, partir sur des courses de 25-30 verges. Ça n'arrivera pas avec Mayfield.
Des bonnes nouvelles pour Arizona. Ils ont trouvé leur carrière. C'est quand même une bonne nouvelle. Depuis qui est...
Il y a eu quelques belles années de Carson Palmer et de Kurt Warner, mais c'est des vétérans qu'on patchait un peu, si vous me passez l'expression. T'sais, c'était pas des solutions à très long terme. Puis Jean, juste pour finir sur ton point, tu dis que le 5 et 10 est une excellente blague. Moi, je trouve que le 207 livres est encore plus hilarant. Là. Écoute, il est tout petit Kyler Murray. Il paraît qu'il a déposé une pétition, d'ailleurs, pour que les Giants changent de nom. Ça porte ombrage aux gens de petite taille.
Bravo! On fait une pause là-dessus, les gars. Et après, on revient. Le match commence. Premier essai. Ah, on est de retour à la zone payante. C'est du football à 4 essais. On va faire 4 essais avec nos experts. Le premier essai, on va y aller avec les équipes qui devaient perdre à plate couture et ont surpris bien des gens. Et il y en a d'autres aussi qui ont débuté du mauvais pied. Jean, quelle équipe a le moins bien débuté sa saison?
Écoute, il y en a un paquet qui ont pas bien commencé. Moi, les Browns de Cleveland ont été horribles. Là. Écoute, t'affrontes une très bonne équipe, les Ravens de Baltimore, mais c'est dans ta division. Maintenant, c'est plus vrai là, que tu es supposé être surpris d'affronter les Ravens pour leur style de jeu. Ça fait un an et demi là, que Lamar Jackson, mais même 2 ans qui est là, qui est en place. Tu connais le système de jeu des Ravens, tu es supposé être prêt. Puis ce qu'on a vu, honnêtement, c'est les mêmes bons vieux Browns sous l'ère Freddie Kitchen. C'était horrible. Punition après punition, un club mal préparé, Baker Mayfield qui lance une interception en partant, une unité spéciale sur l'unité de beauté de dégagement qui essaye un jeu surprise qui marche pas. Bref, il y a rien qui a marché dans ce match-là. Est-ce que c'est encore les bons vieux Browns qu'on va voir jusqu'à la fin de l'année?
On te le souhaite pas, mon Jean.
Non, mais oui, effectivement, je suis un fan des Browns. C'est difficile d'être un fan des Browns, je peux vous le confirmer. Mais moi, ça m'a frappé. Écoute, je m'attendais à nettement mieux. Puis ça a été horrible. Par contre, il y a des équipes pour moi qui ont été désagréables.
Ouais, mais on y viendra, Jean, si tu le permets. Ouais, Stéphane, vas-y donc, toi, c'est qui a moins bien débuté cette saison?
Pour moi, ça saute aux yeux, c'est les Colts. Colts d'Indianapolis, une défaite gênante face aux Jaguars. Écoutez, les Jaguars n'ont pas nécessairement un club de la NFL cette année, il faut pas oublier ça. On parle d'un club de la Ligue américaine, peut-être de la East Coast, là, dans ces eaux-là. Ils pourraient surprendre quelques matchs, là, j'en conviens, mais pour moi, les Colts devaient absolument gagner ce match-là. Encore une fois, un match de division. Philip Rivers, dans son nouvel uniforme, qui a montré les mêmes vilaines habitudes que l'an passé. Deux interceptions, dont une en fin de match, là, qui a vraiment coulé les Colts pour de bon. C'est pas ce que tu veux voir. Puis, moi, j'ai présenté Philip Rivers dans mes papiers d'avant-saison en disant, c'est un vétéran, il a connu des moments très difficiles l'an passé, ça fait pas de doute. Mais s'il y a un endroit où il peut rebondir, c'est bien à Indianapolis, derrière l'une des meilleures lignes offensives de la Ligue. Il n'y a plus l'excuse de la pression qui arrive jeu après jeu après jeu, puis surtout pas contre les Jaguars. Ils n'ont plus personne pour appliquer la pression. Donc, pour moi, ça, c'est la déception de la semaine, sans contredit. Il va falloir qu'ils rebondissent et vite. Il y a leur porteur de ballon en plus, Marlon Mack, qui s'est blessé, fini pour l'année. Ça fait beaucoup de choses à digérer en une semaine là, pour les Colts. C'est pas du tout le début de saison auquel je m'attendais. Moi, je m'attendais qu'ils gagnent ce match-là par 10-15
points. OK. Qui a eu un bon début de saison alors, Jean?
Les Seahawks, pour moi. Je suis déçu quand même de la performance des Falcons, mais les Seahawks ont été extrêmement solides, autant offensivement, puis on en parlait un petit peu avant le show avec Stéphane. Souvent les Seahawks ils comptent sur le jeu au sol à outrance, puis par la suite ben ils incluent leur carrière Russell Wilson. Là, ça a été le spectacle Russell Wilson. Vas-y mon grand, découpe-moi ça cette défensive là. Il a répondu 4 passes de toucher, puis en défensive aussi l'addition de Jamal Adams est incroyable pour les Seahawks. Il était partout. Donc, honnêtement, les Seahawks vont être très, très difficiles à battre dans cette
division. Steph, une équipe qui a eu un bon départ, mais qui pourrait avoir de la difficulté la semaine 2?
Posé comme ça la question, moi, j'irais avec Washington. T'sais. C'est une belle victoire, puis il faut le souligner. Une victoire dans la NFL, là, que les gens disent pas « Ouais, mais Philadelphie avait des blessures sur la ligne offensive, il manquait Alshon Jeffrey, il manquait Miles Sanders, je comprends tout ça. » Mais une victoire dans la NFL, ça reste une victoire. Quand tu obtiens 8 sacs du corps, ça reste un très bel accomplissement. Puis c'est annonciateur de belles choses à venir du côté défensif chez l'équipe de Washington. Je vais commencer à m'habituer.
Là, ils s'en vont en Arizona.
Ouais, c'est ça. Ils s'en vont en Arizona. Puis le reste du calendrier, tu sais, je m'attends pas que les Redskins finissent 11 victoires, 5 défaites. Là. Peut-être que dans leur cas, une saison couronnée de succès, ce serait plus on se rapproche tranquillement pas vite de la barre des 500. Tu sais, ce serait déjà un très grand pas en avant. Puis je le dis sans aucun sarcasme. À un moment donné, quand tu pars de 3 et 13, puis que tu t'en vas, tu te rapproches de quelque chose comme 8 et 8. Je pense que tu dois considérer cette saison-là comme un succès, mais c'est pas fait ça non plus. On voit qu'il y a encore du synchronisme à aller chercher en attaque. Du côté défensif, par contre, très rassurant là, pour ce premier match de Chase Young, entre autres. Ouais. Là, mais tout le reste de la bande, là, il y a plusieurs joueurs de l'équipe là, qui ont réussi de gros jeux en défensive, des sacs du corps, donc une performance à souligner quand même.
OK, la Ligue, deuxième essai, les gars, si vous êtes prêts. 2 et 8, mettons. La Ligue a annulé ses matchs pré-saison. On s'attendait peut-être à du manque de synchronisme, de la difficulté de l'attaque. Mais d'après vous, est-ce qu'il y a eu des conséquences sur l'annulation des matchs pré-saison? Les arbitres, les coachs, le spectacle en général? Stéphane, tu peux commencer?
Ben, moi, juste pour parler un petit point rapidement sur le spectacle en général, j'ai trouvé ça très bien. Moi, en fin de semaine, j'ai été diverti. Il y a eu plusieurs bons matchs. Pour ce qui est de la présentation des réseaux télé, tu sais, moi, j'ai pas détesté du tout les bruits de foule. C'est pas l'idéal. Je pense que là, on va être tous d'accord là-dessus qu'on préfère une bonne vieille foule.
Que du son ambiant.
Les bons bruits au bon moment. Mais le son ambiant, en écoutant le match, je peux pas dire, moi, que ça a été un facteur irritant. Tu sais, je m'attendais à ce que ce soit pas mal moins bon que ça. Au niveau de l'arbitrage, ça a été une belle semaine de manière générale. Il y a eu deux calls un peu plus discutables, sans dire que c'est des mauvais calls. Je parle des interférences sur des passes, mais à l'offensive contre AJ Green des Bengals, qui a eu une incidence directe sur le résultat du match parce qu'on pensait qu'il y avait un touché en toute fin de match qui aurait donné une première victoire à Joe Burrow et aux Bengals, mais ça a été annulé. Quand je dis discutable, c'est que le geste du receveur est clair, le bras est étendu au complet. Dans le livre de jeu, si tu le suis à la lettre, tu dois punir. Mais mon point, c'est que dans des incidences comme ça, habituellement, les arbitres rangent pas mal leur sifflet. Donc, il faudrait juste trouver une constance. Si tu le punis cette semaine, punis-le la semaine prochaine aussi, puis l'autre d'après, puis dans tous les matchs. Pas dans un match étendu par-ci, par-là. Sinon, on va se dire, ben l'arbitre a fait du zèle en première semaine. Il faut que ce soit constant à travers la ligue. Mais pour l'arbitrage, moi, chapeau. Une des conséquences qui me fait peur par rapport au fait qu'il n'y a pas eu de match pré-saison, c'est au niveau des blessures. On a commencé à le voir déjà. Il y a eu Von Miller qui est tombé rupture du tendon d'Achille avant même le début de la saison. Puis cette semaine, même chose avec Marlon Mack. Puis ça, à mon sens, ça pourrait être dévastateur. C'est pas nécessairement un hasard. T'sais, il y a eu des camps d'entraînement écourtés. Il n'y a pas eu non seulement là, de match pré-saison, mais il n'y a pas eu de saison morte comme telle, d'entraînement printanier, de mini-camp. Tout ça là, pour se mettre dans le bain, préparer son corps au choc de la NFL, il n'y a pas eu ça. Puis la dernière saison qui est comparable dans l'histoire par rapport à ça, c'est 2011, l'année du lockout. Rappelez-vous, là, il y avait eu une saison morte à peu près inexistante aussi. Puis j'ai fait des petites recherches, puis durant les premiers jours de la saison, il y avait eu 10 blessures là, comme ça, des déchirures du tendon d'Achille plus spécifiquement. Donc, c'est une blessure qui risque de survenir souvent dans le cas où les athlètes sont pas nécessairement entraînés comme ils le sont habituellement. Donc ça, je pense que ça va être une situation qui va être à surveiller dans les prochaines semaines. Ça pourrait faire des ravages malheureusement.
Jean, est-ce que le spectacle a souffert de l'annulation des matchs pré-saison cette année?
Non, honnêtement, moi je m'attendais à peut-être une qualité de match un petit peu inférieure. Puis j'ai trouvé que la qualité était très bien. Il y a eu des super matchs, il y a eu plein de matchs qui se sont décidés à la fin. Le match Raiders-Panthers était incroyable, là, honnêtement. Très, très offensif. Là,
mais d'après moi, je sais, tu sais pas où les offensives cliquaient quand même en fin de semaine.
Exact. C'est un peu ça, moi, que je m'attendais peut-être que ce soit un petit peu plus compliqué au niveau offensif. Par contre, je pense que les matchs pré-saison, ils ont puni un petit peu les équipes qui ont eu des changements au poste d'entraîneur-chef puis de coordinateur à l'attaque. Je pense, entre autres, aux Bucks de Tampa Bay, ça a été un petit peu plus difficile. Les Browns, entre autres, tu sais, il y a eu quelques clubs comme ça. Là, tu vas me dire, oui, mais t'as les Pats, ça a super bien été.
Ouais, quand tu cours 45 fois, c'est plus facile.
Ils ont juste changé le système de jeu. Ouais. Mais ils ont le même coaching staff, ils sont habitués de travailler ensemble. Pour moi, c'est un petit peu différent. Ensuite, honnêtement, l'arbitrage, moi, je suis Steph, j'ai adoré l'arbitrage. Puis j'ai aucun problème avec les deux passes à interférence qui ont été appelées. C'est le bon call, il faut juste qu'ils gardent ça de façon constante. Puis ils les appellent normalement. C'est la seule différence pour moi, c'est que souvent, c'est en fin de match. C'est là qu'ils ont tendance à plus les appeler. Là, ils les ont appelés. Ben, qui garde ça pour toute la saison, ça va être parfait.
Lundi, puis tu sais, on parlait des joueurs, on parle du spectacle, mais les coachs, là, est-ce que Vic Fangio hier, la façon dont il a géré lundi soir sa fin de match, en gardant ses temps d'arrêt, il aurait peut-être profité d'un peu de la pré-saison pour pratiquer sa gestion de fin de match?
Je comprends le point, mais en même temps, je regardais ses explications, c'est pas fou. Il disait, on était face à un botteur qui était complètement en difficulté. Là. Il était dans le champ, Steven Goskowski, pour les Titans hier. Il leur a coûté 10 points, tout simplement. Là. Puis Vic Fangio disait, le fait de prendre un temps d'arrêt leur permettait de se concerter un peu, puis possiblement d'avancer plus sur le terrain, puis d'aider leur botteur en difficulté. Donc, écoute, c'est pas une gestion idéale, j'en conviens, mais je trouve que l'explication est pas bête. Là, tu voulais que leur botteur soit dans la situation la plus stressante possible, qu'il botte le plus loin possible. Ça a pas fonctionné en bout de ligne, là, mais je pense pas que la pré-saison aurait changé quoi que ce soit. Là. Par contre, une équipe qui a bien amorcé sa pré-saison, c'est les Jets de New York. Je dirais pas la saison, là, parce qu'eux autres sont clairement encore en mode pré-saison. Pour des équipes comme ça, ça a vraiment pas été facile. Il y a des équipes que c'était atroce à l'attaque. Ça peut juste aller vers le mieux. Puis pour faire un dernier point là, sur l'élément que Jean a apporté sur les nouveaux entraîneurs-chefs, écoute, c'est pas compliqué. Il y en a 5 nouveaux. Puis le seul qui a eu une victoire, c'est Ron Rivera à Washington. Tous les autres, c'est une défaite, là, sauf erreur. Donc, ça prouve qu'à quelque part, ben, tu paies le prix en début de saison comme ça.
Troisième essai, les gars. Écoutez, les gens à la maison qui aiment voir des ralentis de Tom Brady fâchés ou en train de crier à l'arbitre ou en train de détacher son casque là, avec dépit ou assis l'air hagard. C'était l'occasion ou jamais dimanche contre les Saints. L'équipe de Tom Brady a perdu face aux Saints de Nouvelle-Orléans. Mais là, la question qui brûle toutes les lèvres, est-ce que le corps de 43 ans devrait rentrer chez lui manger le pain aux bananes de Gisèle au lieu d'envoyer des canards au demi-coin des équipes adverses pour des pick-six? Stéphane?
Oh, que ça commence fort, ça. Hey, non, moi, je suis pas prêt à dire ça. Ben écoute, c'est une belle intro, ça le dit. Je trouve ça imagé et tout. Mais Tom Brady finit. Je suis pas prêt encore à le dire ni à l'écrire. Moi, faut laisser le temps au temps. Je suis pas de ceux qui s'excitent généralement après une semaine d'activité. Tu sais, pour moi, c'est pas parce qu'il y a eu les résultats qu'on a connus en fin de semaine qu'il va avoir un Super Bowl Jacksonville contre Washington. Tu sais, vous me comprenez? Il y a des choses qui vont changer dans les prochaines semaines. Tom Brady, il a mal joué. Ça, il n'y a aucun doute. Tom Brady l'a dit lui-même. Bruce Arians, il a donné un beau char de... Après le match aussi, tu sais, il y a personne qui est content de ce résultat-là.
Mais là, Stéphane, j'ai envie de te poser une question parce que le premier touché de Tom Brady, là, c'était un quarterback sneak, là, une course du corps arrière derrière sa ligne offensive, une faufilade du corps, puis ça avait pas l'air d'être le call du coach.
Ben, c'est possible qu'il ait ajusté le jeu à dernière minute. Là, Tom Brady a cette liberté-là de faire un audible à la ligne de mêlée, mais c'est une de ses spécialités. Il le fait maintes et maintes fois en Nouvelle-Angleterre, une faufilade du corps.
Mais il était quand même loin, il était à deux verres. Je me dis peut-être que ça commence une relation avec son coach un peu tendue. Non.
Je le verrais pas comme ça. Moi, c'est plus les commentaires d'après-match de Arians qui m'ont étonné. Tu sais, qu'il lance en dessous de l'autobus après un match, mais c'est le style Arians, là. C'est pas contre Tom Brady. Il le fait, je sais pas si vous avez vu, il a barouetté son bloqueur à gauche Donovan Smith aussi, là, après le match. Il a dit, on n'est pas habitué à du jeu comme ça de sa part, très décevant. Il a des problèmes en ce moment, il est en train de retrouver des vieilles techniques qui fonctionnaient pas et qu'on avait corrigées. Tu sais, il a pas été tendre, là, à l'endroit de ses joueurs. Puis Brady, premier à dire là-dedans qu'il faut qu'il joue mieux. Là. Évidemment que c'était pas convaincant comme première performance, mais les Buccaneers, dans l'ensemble, étaient pas synchro du tout. Là. Écoute, Mike Evans, le receveur étoile, était pas en santé. Donovan Smith, qui a connu justement un match horrible, il y a eu plusieurs offside de la part des joueurs de ligne offensive, tu sais, dans un stade où il n'y a pas de spectateurs. C'est inexplicable. Tu sais, d'habitude, tu vas dire, ouais, mais en Nouvelle-Orléans, c'est normal, le bruit, tout ça. Là, tu n'as pas l'excuse. Vita V, le plaqueur défensif, qui a été offside sur un critique quatrième essai et deux verges. Un botté d'envoi qui a été échappé en deux joueurs. Il y a eu une confusion totale de communication. Tu sais, c'est l'ensemble de l'œuvre qu'il faut souligner chez les Buccaneers. Est-ce que Tom Brady est fini? Moi, je peux pas... Jamais je vais dire ça après un match. On en reparlera là, après quelques semaines si la situation s'améliore pas.
La question, c'est plus, est-ce que c'est son année de trop? Là?
Écoute.
L'an passé, là, moi, pour l'avoir suivi assez l'an passé, il n'y a pas eu des. Il n'y a pas eu une bonne saison l'an passé.
Il n'y a pas eu une bonne saison, mais il n'y avait pas grand monde à qui lancer le ballon en Nouvelle-Angleterre. T'sais, il n'était pas très bien appuyé pour une des rares fois de sa carrière. C'est sûr qu'il fait son âge tranquillement, pas vite, Tom Brady.
Il n'y a pas eu une bonne saison, mais il n'y a pas eu une mauvaise saison non plus, j'en ai.
Non, tu regardes son ratio de passes, de toucher, interception, ouais. C'était plus que respectable. Écoute, ça a mal fini en série, ça commence mal cette année. Il y a de quoi se poser des questions. C'est légitime, honnêtement, de se poser la question. Mais de là à conclure après une semaine, moi, je trouve que c'est beaucoup trop hâtif. Il y a trop de monde autour de lui qui ont aussi mal joué que lui. Je pense que je laisserai encore une chance à Brady là, de montrer que c'est peut-être pas fini tout ça. Puis il y a le synchronisme à développer avec une nouvelle équipe sans pré-saison. Là, on revient à notre point de tantôt. C'est un contexte nouveau. Après 20 ans d'expérience dans un système où il rodait à peu près tout comme il voulait, là, c'est une toute autre expérience. Laissons-lui, s'il vous plaît. Moi, je dirais que peut-être qu'à la fin du mois de septembre, là, on aura une idée plus claire de qu'est-ce qu'il
y a. OK, Jean, rapidement, toi, ton opinion là-dessus?
Un peu la même chose que Stéphane. Je pense pas que c'est une année de trop. Puis c'est souvent dans le mental des fans, une année de trop. Si le Tom Brady est encore capable de jouer dans la NFL, laissons-le jouer dans la NFL. S'il veut être, je sais pas moi, backup jusqu'à 55 ans, puis il est capable de le faire, ben oui, c'est sûr que son image du grand carrière va s'estomper. Mais si c'est ça qu'il veut, je peux pas croire qu'on peut enlever le désir de compétitionner de quelqu'un pour simplement là, garder une belle image de lui.
C'est un bon point.
Mais
c'est un bon point.
L'autre point, c'est honnêtement, par contre, il y a une chose qu'il faut avoir que les Bucks règlent. Le timing était vraiment ordinaire. Il n'y avait pas de chimie avec son receveur numéro un, Mike Evans. Puis la ligne à l'attaque a été horrible. Reste que l'adversité de l'autre côté était très forte. Les Saints ont une très bonne défensive. Puis c'est ça un peu l'aspect, moi, qui me fait un peu plus peur. Il n'est pas dans la même division qu'il était. La division est nettement plus forte dans celle-ci. Il l'a vu un peu contre les Saints. J'ai hâte de voir le reste où est-ce que ça s'en va. Mais une chose est sûre, ils devront protéger beaucoup mieux leur carrière de 43 ans. Parce que là, ça a été compliqué en fin de semaine. Puis Bruce Arians, il aime souvent utiliser des concepts longs, des longs tracés pour ses receveurs. Donc, des concepts qui prennent un peu plus de temps à développer. Pour ça, faut que tu protèges. Et s'ils sont pas capables de le faire, là, ça va être une saison difficile.
OK, merci Jean, merci Stéphane. Hey, je vais vous laisser avec cette statistique intéressante sur laquelle vous pourriez méditer. Vous savez que Tom Brady a lancé un pick six en fin de semaine pour le troisième match consécutif. Et le dernier à avoir fait ça était Blaine Gabbert en 2013.
Oh.
En bonne compagnie. On fait une pause et on revient. Quatrième essai, on y va ou on dégage? OK, on est de retour à la zone payante. C'est le quatrième essai. On y va ou on dégage? Première question, des questions à rafale sans débat, ou en tout cas le moins possible, les gars, si vous pouvez. On va commencer avec les recrues de cette semaine. Chase Young, Jean, tu nous disais de surveiller Chase Young, repêché deuxième au total en 2020. Est-ce qu'il a connu un bon match?
Excellent match. Je pense qu'il a montré ce qu'il va être capable de faire dans la NFL. Autant d'être capable de jouer le jeu au sol, mais surtout mettre beaucoup de pression sur le carrière. Il va être incroyable.
Stéphane, Jean aime beaucoup Chase Young. Moi aussi, je pense que c'est unanime, là, un gars très dynamique.
C'est dur de ne pas aimer Chase Young, puis il faut surtout observer l'effet qu'il y a chez ses coéquipiers à Washington. T'sais. C'est un front défensif, là, comme on disait tantôt, qui a fait 8 sacs du corps. Il y a beaucoup de joueurs qui ont participé, que ce soit Ryan Kerrigan, que ce soit Montez Sweat. Écoute, il rend tout le monde autour de lui meilleur. Je pense que ça va être une défensive à surveiller dans les prochaines années.
Le bon okay, Ryan Kerrigan, quand même.
Oui, c'est vrai. Hein? Chase Young était deuxième au total en 2020 repêché. Joe Burrow, lui, était le premier choix repêchage. Il a perdu en fin de semaine, mais est-ce qu'il gagne son premier match cette semaine contre les Browns, Stéphane?
Ben, contre les Browns, tu as toujours de fortes chances de gagner, mais cela étant dit, je peux pas croire que les Browns vont se faire rincer deux semaines de suite comme ils se sont fait rincer cette semaine, ça se peut pas. Cette équipe-là a trop de talent à l'attaque. C'est là où je me pose la question dans le cas des Bengals, là, avec une défensive qui est fragile, même s'ils ont connu quand même une bonne première semaine à ce niveau-là. Je pense que ça va leur retomber d'en face. Mais juste pour revenir sur le premier match de Burrow, certains vont regarder les statistiques puis se dire, ben, écoute, il y a moins de 200 verges, il n'y a pas eu une passe de toucher. Il faut pas le voir comme ça. C'était son premier match. Il a pas été bien préparé là durant la saison morte pour le contexte qu'on connaît. Et puis, il a mené une séquence carrément impressionnante en fin de match là, face aux Chargers, qui aurait dû se solder soit par une victoire ou soit par un placement qui menait l'équipe en prolongation. Mais le batteur a raté son coup. Il a fait tout ce qu'il fallait dans cette séquence-là. Il a démontré un calme vraiment désarmant. Il a rejoint tous ses receveurs. Franchement, là, ça a été un très, très bon signe de finir le match comme ça dans un contexte où la pression était forte. J'ai bien aimé ce que j'ai vu, là, moi, de Joe Burrow, au-delà de la ligne statistique.
On va nous poser la question à quelqu'un qui est neutre dans le débat. Est-ce que Joe Burrow gagne contre les Browns cette semaine pour sa première victoire dans la NFL, Jean?
Ça va être difficile, honnêtement. J'ai aimé ce que j'ai vu quand même de Joe Burrow. Mais il a eu quand même l'air d'une recrue à certains moments. Je suis d'accord avec Steph, il y a eu des super beaux flashs, mais reste que c'est un carrière recrue par moment. Il regardait juste une seule lecture, il n'y avait pas d'autres options. Il regardait du côté de Green, si c'était that's it, c'est à lui que je lance. Ça, c'est le genre de choses que les entraîneurs vont défensifs, la bave coule présentement. Ils sont contents de voir ça. Là, ils disent hey, on va mixer, on va mélanger un peu les couvertures, puis il va être dans le pétrin un peu. Donc, il va apprendre à la dure, puis je pense que la deuxième semaine va être un petit peu plus dure pour lui, mais définitivement qu'il a montré des belles choses en fin de semaine.
OK, un des favoris de la zone payante, les gars, Gardner Minshew, une performance presque parfaite en fin de semaine. On en parlait un peu en début d'émission avec les Jaguars, une victoire. Est-ce que Gardner Minshew et sa prestation de cette fin de semaine, c'est un mirage?
Pour moi, c'est pas un mirage au sens où je pense que Gardner Minshew est un bon joueur de foot. T'sais, c'est un bon corps arrière, très précis comme on l'a vu, 19 en 20. Là, écoute, tu vois pas ça toutes les semaines. Il est mobile, il est athlétique. La seule chose, c'est que là, c'est une victoire, ça va. Mais les Jaguars, si tout va comme on pense, ils gagneront pas leur lot de matchs cette année. Qu'est-ce que ça va prendre pour que Gardner Minshew demeure l'homme de confiance l'an prochain? C'est ça la grande question. Faudrait qu'il joue des semaines comme il a joué cette semaine, mais à peu près à tous les dimanches. Ça devient presque insoutenable comme rythme. C'est là où je pense qu'à quelque part, il a beau être bon, si les Jaguars finissent l'année avec 3, 4, 5 victoires, ben ils vont dire, écoute, merci Gardner, mais on va probablement passer à autre chose de toute façon. Donc, je pense qu'à quelque part, il y a comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Lui, il faut qu'il soit parfait à toutes les semaines. Puis, j'en doute, là, ça va être difficile de maintenir ce rythme-là pendant 4 mois.
Jean, ton favori à la moustache, qu'est-ce que t'en penses?
Dieu sait que j'aime et j'adore Gardner Minshew.
Moi aussi.
Au niveau de son look, mais ça va être difficile aussi. Dans le cas de Minshew, c'est un gars qui aime beaucoup distribuer le ballon. On l'a montré. Tout le monde est impliqué, ça. J'adore ça. Il y a un peu de Tom Brady en lui de ce côté-là. Mais il y a une chose qui va s'ajuster rapidement contre les Jacks. Les équipes vont mettre beaucoup plus de pression, vont arrêter de jouer de la zone, puis vont dire essaye de nous battre loin un peu, puis lance des bombes. Je pense qu'il va manquer d'outils pour faire ça.
Oui, parce qu'il était 19 en 20, mais il n'a pas fait 200 verges.
Non, exact. C'est des petites passes courtes. Je pense que les défensives vont s'ajuster puis vont mettre beaucoup plus de pression pour les prochains matchs.
OK, les gars, prochain segment, je veux que vous mettiez dans la peau des joueurs que je vais vous nommer puis que vous me disiez si vous étiez à leur place, vous seriez déprimé ou pas déprimé. OK, on commence. Le'Veon Bell.
Écoute, il n'y a pas assez d'antidépresseurs présentement sur la planète, je pense, pour aider Le'Veon Bell. C'est, pour moi, il est ultra, ultra déprimé. C'est son choix quand même, par contre. C'est lui qui a choisi les Jets. Mais très, très, très déprimé. Je pense que ça s'attendait à beaucoup mieux.
Toi, Stéphane?
Moi, je dis que Le'Veon Bell, s'il regarde ses performances, les performances de sa ligne à l'attaque, les performances de son corps arrière et les performances de son entraîneur Adam Gase, je pense qu'il est dans une boule, dans un coin, puis il pleure pour les 30 prochaines années. S'il regarde son compte en banque, il va se consoler.
C'est ça, je me dis aussi. Ça, d'ailleurs, ça risque d'être le cas de plusieurs de nos joueurs.
Les deux.
Il a choisi clairement le contrat que les Jets lui offraient plutôt que le championnat que les Steelers pouvaient lui offrir potentiellement. Là. Donc, c'est son choix et qu'il vive avec maintenant.
Les deux, c'est intéressant parce que les deux porteurs de New York présentement sont un peu dans le même panier. Le Bell puis évidemment Saquon Barkley. Deux gars quand même extrêmement talentueux, mais aucune ligne à l'attaque devant eux. Et c'est là que tu vois l'importance des gros bonhommes. C'est difficile en tabarouette. Ceux qui ont vu hier au Monday Night, Saquon Barkley, ne pouvaient rien faire. Là.
Ah non, il y avait le ballon dans le charrière, puis il y avait déjà quatre gars sur lui.
Exact.
OK. Josh Rosen, maintenant, qui est troisième carrière derrière Tom Brady, est-ce qu'il est déprimé ou pas déprimé, d'après vous?
Moi, je pense qu'il ne l'est pas. Je pense que c'est pour la première fois qu'il peut prendre un petit peu de temps de relaxation et dire, écoute, il n'y a pas vraiment de club qui a cru en moi. Là. Il y a un club qui me dit, regarde, relaxe un petit peu, regarde comment lui fait les choses, tu vas peut-être apprendre des choses. Je pense qu'il se sent désiré, même s'il est troisième carrière pour la première fois depuis son arrivée dans la NFL. On ne l'a pas tassé dans le coin. Je pense que les choses vont s'améliorer pour Josh Rosen.
Moi, je pense qu'il n'est pas déprimé, Josh Rosen, mais pas pour les mêmes raisons que Jean. Ce gars-là me laisse une impression de froideur extrême. Il a pas l'air nécessairement à se préoccuper, à être... Il a pas l'air d'avoir le feu au derrière, en bon français, là. Je sais pas, je pense pas qu'il est déprimé, je pense pas qu'il est affecté, je pense qu'il se dit qu'il est là, puis, tu sais, il m'a pas montré à date, depuis son arrivée dans la NFL, que c'est un grand compétiteur qui a le feu sacré dans le ventre, qu'il veut, là. C'est ça, là, moi, qui m'accroche dans son cas. C'est impossible que l'année passée, il ait pas joué à Miami. Comment ça se peut, ça?
Ouais, il a joué, mais il a mal joué.
Il a joué à toute fin pratique. Là. Il a eu à peine son... Parce que je pense pas que les coachs aiment sa personnalité, justement, puis le fait qu'il n'est pas... c'est pas un accro à la compétition. Écoute, je le connais pas personnellement. Là. Les gens vont dire, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il dit ça, mais c'est parce qu'on le voit en entrevue, on le voit son non-verbal. Je trouve pas, moi, qu'il a l'air d'un Tom Brady, d'un Peyton Manning. Il a pas le faux au ventre. Donc, il n'est pas déprimé.
Carson Wentz, d'après vous, est-ce qu'il est déprimé ou pas déprimé? Rapidement, Jean.
Non, il n'est pas déprimé. Il a vu nettement pire l'an passé. Oui, il y a quelques blessures autour de lui, là, mais c'est à rien à voir avec la situation des Eagles l'an dernier. Puis, il a quand même trouvé une façon de faire les séries l'an passé. Je pense qu'il est quand même positif ce matin.
Je pense pas que sa saison est finie. Il n'y a pas de raison d'être déprimé. Par contre, ça va prendre des sacs de glace. Là. Ça fait mal. Il se fait ramasser comme ça depuis un bon bout. Là. Tu sais, c'est le premier match de l'année, mais l'année passée, c'était le même scénario. Ses receveurs tombent au combat. Je veux bien qu'on blâme Carson Wentz. Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, il régresse, puis les Eagles régressent à son rythme. » Pas tout à fait d'accord avec cette affirmation-là. Je pense que tant que Carson Wentz va être seul au combat comme ça, on ne pourra pas nécessairement juger de son progrès ou de sa régression. Quand il y aura une équipe complète et en santé autour de lui, là, on pourra se prononcer avec certitude.
Philip Rivers, déprimé ou pas déprimé?
Il peut pas être déprimé. Il a 9 enfants à la maison, man. Il a même pas le temps, là, les gars. Là. C'est même pas une question. Mais honnêtement, il faut qu'il commence à se poser des questions, notre beau Philip, parce que il y a, comme on l'a mentionné, il est à bonne place, il y a des bons outils autour de lui. Falloir maintenant qu'il livre la marchandise avec les Colts. Et surtout qu'il arrête de lancer cette fameuse mauvaise interception au mauvais moment.
Je pense qu'il n'est pas encore déprimé, la saison est trop jeune, mais donne-y une autre semaine comme ça. Si c'est pas lui qui est déprimé, c'est moi qui vais l'être parce que je les ai mis champions de division, les Colts. On va rester patient, là, mais pas trop dans son cas.
Michael Thomas, il était en fin de match, puis il avait pas encore attrapé une passe. Est-ce qu'il doit être déprimé ou pas déprimé? Puis en plus, qu'il s'est blessé à la cheville?
Non, pas déprimé. C'est sûr que c'est pas sa production habituelle, là, mais ça va revenir assez rapidement avec les Saints. Je suis aucunement nerveux de ce côté-là. Puis en plus, c'est pas un individuel, c'est pas une star individualiste. Hein. Je pense que Michael Thomas, il a l'air d'un bon gars d'équipe. Je pense qu'il est content que les Saints aient gagné quand même.
Oui, c'est ça, grosse victoire des Saints, aucune raison d'être déprimé. Il a pogné quoi, 3 passes? C'est sûr que c'est pas habituel dans son cas, mais écoute, s'il était déprimé puis qu'il faisait ses petites scènes sur les lignes de côté, on commencerait à se dire que c'est une diva. Puis Michael Thomas, comme j'en dis, c'est pas du tout l'impression qu'il a donné depuis son arrivée là, dans la NFL. C'est pas ce genre de receveur-là. Jusqu'à preuve du contraire, parce que c'est un virus qui circule abondamment chez les receveurs. Ouais, à un moment donné, c'est se métamorphoser complètement. Donc, on va se croiser les doigts. Mais non, Michael Thomas, pour l'instant, n'est pas déprimé.
Parlant de receveur de passe haut en couleur, Odell Beckham, est-ce que lui, il doit être déprimé ou pas déprimé ce matin?
Je pense qu'il a passé le stade de la déprime, Odell Beckham. Je pense que la déprime est arrivée le jour où les Giants ont dit « on t'échange à Cleveland ». Ça, c'était la grande dépression. Là, je pense qu'il est même plus animé. Là, il est comme, il est plus incarné. Il est dans une autre stratosphère. Il est plus là, Odell Beckham. Il va vraiment falloir qu'il redevienne un facteur dans les matchs, puis ça presse, là, parce que c'est bien beau de dire l'année passée, ouais, il fallait qu'il s'acclimate à un nouveau corps arrière, un nouvel environnement. On n'est plus là du tout, on s'entend. Bon, vous allez me dire, il y a un nouveau coach, c'est un nouveau régime en place, d'accord, mais à un moment donné, là, ça fait maintenant là, au-dessus d'un an que t'es avec le corps arrière en place, Baker Mayfield. Il faut qu'il y ait des résultats parce qu'on va commencer à se demander si Odell Beckham, c'est pas quelqu'un qui s'est emparé de son corps ou je sais pas quoi, on le reconnaît plus sur le terrain, c'est plus du tout un facteur en ce moment.
Jean, ton Odell Beckham, est-ce qu'il doit être déprimé ou déprimé à matin?
Je refuse que tu me le mettes sur mon... c'est pas mon Odell Beckham. mais...
Tu te désolidarises vite, je trouve.
Peut-être une petite déprime là, du côté d'OBG. C'est un gars qui aime avoir le spotlight sur lui. Puis présentement, ben il fait pas grand-chose dans son jeu à lui. En plus, la connexion avec Baker Mayfield, ça a l'air difficile. Ça a pas l'air d'être une chimie facile. Ça prend du temps. Je pense je suis pas mal sûr qu'il soit à déprime.
En début d'année, il disait que l'année passée, il était pas à 100%, que cette année, il était à 100%. Il va falloir qu'il le démontre. Rob Gronkowski, ce matin, est-ce qu'il est en déprime ou pas sa déprime?
Non, pas pour moi. Il n'a pas été grandement utilisé, mais comme je dis, c'est un peu toute la chimie des box qui n'est pas encore à point. Je pense qu'ils vont trouver une façon de le mettre à son avantage dans cette attaque-là. Ça sera pas. Ça prendra pas à la fin de l'année pour voir Rob Gronkowski à son meilleur.
Steph?
Non, je pense pas qu'il est déprimé. Cela étant dit, je serais curieux de voir comment il se sent physiquement. Parce qu'on sait qu'il avait arrêté, lui, parce qu'il en pouvait plus des blessures. Il avait le dos, le coude, le genou. Tu sais, il avait vraiment l'air de Robocop sur le terrain avec ses 48 prothèses. Je pense que au niveau physique, s'il continue de se sentir bien, ça va être le plus important. Tôt ou tard, il va être utilisé dans cette attaque-là. Là. C'est un non-sens qu'il soit aussi peu ciblé dans un match, surtout avec Tom Brady comme corps arrière là, qui le voit dans sa soupe tout le temps. Je pense que ça va revenir, ça va se placer. Je suis peut-être trop optimiste par rapport aux Buccaneers, mais à un moment donné, moi, j'ai de la misère à me faire une tête sur un seul match puis à tout lancer par la fenêtre. Gronkowski va revenir. Je pense pas qu'il va être dominant comme à ses belles années, mais il va être beaucoup plus un facteur que ce qu'on a vu dimanche.
Est-ce que Kyle Shanahan, le coach des 49ers, va être déprimé ou pas déprimé du jeu de son carrière, Jimmy G?
Bonne question. Non, ouais. Je pense pas, mais il commence à trouver le temps long, notre Kyle. Ça reste que c'est une victime un peu de son système aussi. Kyle Shanahan, c'est pas. Tu sais, tu verras pas un système comme. Tu sais, je vais reformuler un peu. Avec des attaques très ouvertes, avec quatre receveurs. Tu sais, c'est un gars qui aime ça, courir le ballon. Fait que des fois, c'est normal que le carrière n'ait pas des grandes statistiques dans son système. Ceci étant dit, je pense qu'il s'attend quand même mieux de ce qu'il a vu présentement de Jimmy G.
Steph?
Il a raison de s'attendre à mieux. Jimmy G, a été décevant au Super Bowl. Il a été décevant cette semaine. Cela étant dit, avant d'être déprimé, je pense que Kyle Shanahan, il est conscient que cette semaine, Jimmy G pouvait pas lancer à Debo Samuel, pouvait pas lancer au receveur recru, choix de première ronde, Brandon Ayuk. George Kittle a été magané durant le match, il a quitté à certains moments. Semble-t-il que c'est un cas incertain là, pour la semaine à venir. Donc, tout ça mis ensemble fait que t'as pas ton attaque aérienne sur laquelle tu peux miser normalement. Donc, il y a pas de déprime, Je pense qu'il commence à se gratter la tête à tout bout de champ là, par rapport à Jimmy G, au sens, est-ce qu'on a bien fait de tout miser là, nos billes sur lui puis d'y donner un contrat comme celui-là? Mais cela étant dit, si on s'en tient strictement à cette semaine, je pense qu'il y avait des facteurs qui nuisaient un peu au jeu aérien, là, ça allait de soi. Là. Donc, on va prendre les choses calmement. Là. Il n'est pas déprimé, mais il se pose certaines questions, disons-le comme ça.
OK, Steven Gostkowski, lui, a raté 3 placements lundi et une transformation de toucher. Il a laissé 10 points sur la table, on en parlait plus tôt. Son contrat est garanti à partir de la première semaine, fait qu'il va faire 2,5 millions cette année. Mais quand même, là, c'est un fier compétiteur. Est-ce qu'il doit être déprimé ou pas déprimé ce matin?
Il commence à être déprimé, selon moi, parce que c'est... Moi personnellement, j'aurais pas signé ce batteur-là. Je trouve qu'il est sur la pente descendante. C'est plus le même batteur qui était avec les Pats. Puis même avant les résultats d'hier, là, j'ai pas trouvé que c'était une grande signature du côté des Titans. On verra pour le reste de la saison. Je veux pas le condamner au bûcher non plus. Mais pour moi, c'est évident qu'il doit commencer à se poser des questions. Est-ce qu'il est encore capable? Puis, tu sais, pour moi, le batteur dans la NFL, c'est un peu comme un golfeur. C'est une question de confiance. Souvent, ils ont tous pas mal la même puissance dans les jambes. Ils ont des attributs semblables, les batteurs. C'est souvent en haut de la tête là, que ça se passe. S'il perd confiance, c'est terminé.
Écoute, je sais pas si lui est déprimé, mais un qui devrait être déprimé, c'est le commentateur hier au Monday Night Football qui l'a présenté quand il est arrivé sur le terrain la première fois, Gostkowski, en disant « un futur Hall of Famer ».
Ouais.
Ouh! Et là, à un moment donné, je comprends que les commentateurs aiment distribuer les fleurs, là, mais Steven Gostkowski, on oublie le match d'hier, là. C'est pas un Hall of Famer quand même. Là, à un moment donné...
Je vois des statistiques passer. Apparemment qu'il était cinquième dans son taux de réussite comme botteur avant le match d'hier. Puis imagine, il est tombé neuvième.
C'est un match désastreux, là, ça, première des choses. Ouais. Mais tu sais, là, à un moment donné, les portes du temple doivent s'ouvrir aux joueurs d'exception, pas aux bons joueurs. Là, je veux dire, sinon... Hier, en tout cas, je peux te dire une chose. Steven Gostkowski, c'était pas le Hall of Fame, c'était le Hall of Shame. C'était pas beau. Là.
OK. Hey, un petit segment fantasy, les gars. Je sais que vous avez des poules, comme la plupart des gens qui nous écoutent. Puis, on se pose toute la question, là, après la première semaine, là, quel joueur est disponible dans la plupart des ligues et qu'on devrait aller chercher là, pour booster notre équipe là, puis espérer faire la run jusqu'à la finale?
Ah, écoute, moi, parce que la façon dont faut voir ça, c'est qu'on ira pas avec des joueurs où c'est clair là, qui vont nous amener au championnat parce qu'ils sont tous pris, ces joueurs-là.
Oui, exact.
Et à ce stade-ci de la saison, bon, il y a eu quelques petites révélations à gauche, à droite là, dans la NFL. Sans parler d'une grande révélation, moi, je suggérerais d'y aller avec le porteur de ballon, James Robinson, des Jaguars. Il était pas connu, c'est une recrue, un joueur non repêché. Donc, il n'y avait pas nécessairement un visage très connu, mais il s'est clairement établi au camp d'entraînement, puis cette semaine aussi, comme le porteur numéro 1 des Jaguars, Jay Gruden, le coordonnateur offensif, qui aime utiliser un porteur de ballon principalement. Donc ça lui donne une chance d'avoir beaucoup de portée. Il a commencé l'année avec 16 portées, 62 verges. Il y a eu aussi un catch pour 28 verges. C'est pas des chiffres hallucinant, mais quand on parle de joueurs qui sont forts potentiellement disponibles puis qui peuvent nous donner un coup de main, un peu de profondeur, ben je pense que ça peut être une option intéressante.
Jean?
Moi, je vois du côté des Chargers, Joshua Kelly, un des Chargers vont courir beaucoup le ballon. C'est sûr que c'est Austin Eckler, mais dans le cas de Kelly, on a vu que ce serait lui probablement qui va courir le ballon là, dans les situations de troisième et serré, quatrième et les buts, ces choses-là, des situations de court gain. Donc, ça pourrait être évidemment très, très payant. D'ailleurs, il y a un touché face aux Bengals. Donc, un ancien porteur de UCLA, Joshua Kelly, il est disponible. Et évidemment, si vous avez une ligue avec quelques poolers qui ont dormi sur la Switch, que Jonathan Taylor est encore disponible, ben, allez sauter dessus tout de suite. Évidemment, avec la blessure de Marlon Mack, Jonathan Taylor va piler beaucoup de stats avec les Colts d'Indianapolis.
OK, merci les gars, on fait une pause et après la pause, vos prédictions pour la semaine 2 dans la NFL. On est de retour à la zone payante, toujours en compagnie de Stéphane Cadorette, journaliste au Journal de Québec et au Journal de Montréal, et Jean Carrier, analyste du Rouge et Or. Il n'y aura pas de match du Rouge et Or cette année, malheureusement, mais aussi entraîneur au niveau collégial. Les gars, on va passer les matchs de la semaine, puis on va s'attarder un peu sur les matchs les plus importants. On va commencer par jeudi, Cleveland contre Cincinnati. Vos choix.
Pour y aller en premier, je pense que Cleveland va se relever cette semaine. Je fais de quoi que j'aime pas faire parce qu'à chaque fois que je choisis les Bruins, ils me font dans les mains. C'est une habitude de leur part, là, je sais pas. Mais la volée qu'ils ont mangée, j'ai l'impression qu'à quelque part, c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Tu perds de justesse, c'est une chose, mais tu perds comme ça, ça a pas le choix de fouetter les troupes, à moins qu'ils soient complètement inanimés dans ce vestiaire-là. Puis j'ai l'impression qu'on va pouvoir exploiter la défensive des Bengals. Donc, j'y vais avec une victoire des Browns, là, quand même, de manière serrée.
Bon, ça marche. Je n'insérerai pas ici une blague de Odell Beckham, mais j'espère pour toi qu'ils ne te feront pas dans les mains, Jean.
Je vais aussi également avec les Browns. Dans la bataille de l'Ohio, c'est deux équipes qui s'aiment pas vraiment, mais je pense que les Browns vont, surtout défensivement, vont nettement mieux jouer, puis vont donner des problèmes là, à Joe Burrow. Je pense que ça reste quand même une recrue. Il a pas vu énormément de snaps là, dans la NFL. Ça va être plus difficile.
Okay.
Défensivement, on devrait faire assez avec Baker Mayfield pour l'emporter.
Les Eagles contre les Rams.
Elle est touchée, celle-là, parce que je suis pas sûr qu'on a vu les vrais Eagles à la première semaine. Comme je le disais tantôt, beaucoup de blessures. Je vais continuer de leur faire confiance. Je pense que tranquillement, pas vite, il y a des joueurs qui vont revenir. C'est sûr que si Lane Johnson joue pas sur la ligne offensive, ça va faire très mal, puis le choix pourrait revirer. Donc, il est tôt dans la semaine, faut comprendre, là, au moment où on enregistre, il est tôt. Les choix pourraient changer dans le journal de samedi. Là, je vous invite à aller voir ça. On ne sait jamais selon là, l'état des blessures de chaque équipe. Pour l'instant, moi, j'y vais avec une victoire des Eagles.
Jean?
Je vais avec les Rams de mon côté. J'ai aimé le fait qu'ils ont tout simplement dominé le front des deux côtés du ballon face aux Cowboys. Puis j'ai comme l'impression que c'est ça leur mandat cette année. D'être extrêmement physique, spécialement du côté de leur ligne à l'attaque. J'ai aimé ce que j'ai vu. Je pense que s'ils vont brasser les Eagles, ils vont l'emporter.
Tennessee contre Jacksonville. Tennessee favori déjà tôt dans la semaine par plus qu'un touché, les boys.
Ben, Tennessee, pas le choix d'y aller avec eux. Par plus qu'un touché, j'ai des doutes considérant ce que j'ai vu en attaque de leur côté. J'ai pas été convaincu. Bon, en même temps, si Gostkowski rate pas ses trois placements, on parle d'un autre écart. Là. Mais il va falloir être plus convaincant. Là. Peut-être plus, justement, profiter des occasions en zone adverse là, plutôt que de se fier sur un botteur, ma foi, qui est assez chancelant. Mais écoute, j'ai pas le choix là, d'y aller avec les Titans. Je me vois pas miser sur une victoire des Jaguars deux semaines de suite.
J'y vais avec les Titans également. À un moment donné, le miracle Jacksonville, ça va s'arrêter.
Tampa Bay contre Caroline?
Ah ben c'est l'occasion pour Tom Brady là, de montrer que ça peut être beaucoup mieux que ce qu'on a vu la semaine passée. On a vu que la défensive des Panthers, qui est en reconstruction totale, en a arraché contre les Raiders la semaine passée. Ils se sont fait pas mal poivrer, autant au sol que par la passe. C'est là que Tom Brady va pouvoir un peu plus se familiariser avec ses nouveaux jouets. Puis ça va faire mal aux Panthers tôt ou tard.
Ouais, j'ai les Bucks également par plus d'un touché face aux Panthers.
Miami contre Buffalo.
Ça, c'est toujours tricky. J'y vais avec les Bills. Écoute, on a vu, comme d'habitude un peu, Josh Allen, le meilleur et le pire. Je sais pas si vous avez vu la passe qui a raté complètement vers John Brown dans la zone début. Là, ça a fait un peu la ronde sur les réseaux sociaux. C'était d'une atrocité légendaire. Par contre, il a été très, très, très efficace en début de match, au sol, par la passe. Il a été, en début de match, plus précis qu'à l'habitude. Après, ça s'est gâté un peu, mais Josh Allen, je pense que ça va être ça. Ce sera jamais parfait. Ça va être souvent beau. Mais en bout de ligne, il va chercher les résultats, puis les joueurs veulent jouer pour lui, ont l'air à se défoncer pour lui parce que c'est un leader, un guerrier sur le terrain. Les Dolphins n'ont pas mal joué face aux Patriots. Je pense que défensivement, ils ont quand même tenu leur bout. À l'attaque, ça a laissé à désirer. Ça va être difficile contre le front défensif des Bills qui devrait appliquer beaucoup, beaucoup de pression sur Ryan Fitzpatrick.
Jean?
Un peu la même chose. Je m'attends à ce que la défensive des Bills fasse peut-être la différence dans ce match-là. Je m'attends à un match serré. Puis, tu sais, les Dolphins, quand tu regardes un petit peu, ça reste que c'est pas une grande équipe non plus encore. Ils se sont bien défendus quand même contre les Pats, mais ça reste une équipe qui a pas encore beaucoup de talent dans l'alignement. Puis les Bills en ont nettement plus. Ça va faire une différence. Bills.
Minnesota, Indianapolis.
Deux équipes extrêmement décevantes en première semaine. On a parlé des causes tantôt, mais les Vikings, certains vont dire « Ouais, mais ils jouaient contre les Packers, on s'attendait pas forcément à une victoire. » Bon, c'était serré là au niveau des pronostics, mais ils se sont tellement dégonflés défensivement, ça a été vraiment atroce. Les nouveaux demi de coin de l'équipe qui en ont arraché. Ça a été très, très pénible contre Aaron Rodgers. Ceci dit, c'est pas la même attaque aérienne qu'il affronte, donc il y a des chances. Daniel Hunter, l'excellent ailier défensif, qui va toujours être absent là, dehors de ce match-là. Il va être absent, on le sait, au cours au moins des trois premiers matchs. Ça aide pas la défensive des Vikings. J'ai l'impression qu'ils peuvent rebondir cette semaine. Là, il y a des chances. Je suis très, très ambigu par rapport à ce match-là. Si j'ai à faire mon choix maintenant, je prends les Colts qui rebondissent.
Même chose de mon côté. Je pense que Jonathan Taylor va avoir un bon match du côté des Colts comme porteur de ballon. C'est un gars qui était extrêmement talentueux à l'Université Wisconsin. Maintenant, il va courir derrière une grosse et talentueuse ligne à l'attaque. Je pense que les Colts vont rebondir et les Vikings, ça pourrait être une longue saison. Défensivement du moins. Puis on n'est pas habitué à ça parce que c'est un club défensif à la base. Donc, ouais. Victoire des Colts en fin de semaine.
OK, il nous reste 10 matchs, les gars. On essaie d'y aller rondement. Ouais. Dallas contre Atlanta. Jean?
Dallas, Atlanta, j'ai tellement été déçu. Dallas, première victoire.
Moi, je vais y aller avec Dallas parce que sur papier, c'est un alignement qui est beaucoup mieux que ce qu'on a vu en fin de semaine. Puis Atlanta, ben pour moi, c'est une excellente équipe de fantasy football.
Ouais.
Pour ce qui est du vrai football, c'est plus difficile.
Détroit, Green Bay.
J'ai les Packers. Les Packers ont été solides quand même face aux Vikings. Puis Détroit, il manque quelque chose. Il ne faut pas oublier, il y avait une chance de gagner le match. Puis M. Swift l'a échappé en fin de rencontre. C'est un peu ça, les Lions. Donc, victoire des Packers, ils vont trouver une façon de gagner.
Packers aussi, de manière assez facile.
OK, ils sont déjà favoris par presque un touché, les Packers, en début de semaine. Denver contre Pittsburgh.
Écoute, avec ce que j'ai vu comme front défensif hier de Pittsburgh et de toute la défensive, qui ont démontré aucun respect envers les Giants de New York, je prends les Steelers. D'ailleurs, je vais faire un gros statement. Les Steelers vont finir champions de division, à mon avis, si Big Ben ne se blesse pas. Et je crois que c'est la plus grande menace des Chiefs dans l'AFC.
Steph?
Gros statement, mais je suis pas en désaccord. Les Steelers vont être très dangereux. Quand tu voyais TJ Watt et sa gang hier, là, ça faisait peur, ça bourdonnait tout le temps. C'est une équipe qui est très agressive au niveau des plaqués aussi. Puis il y a une chose que j'ai bien aimé des Steelers et qu'il faudrait exploiter plus. Je pense qu'il faut y aller avec Benny Snell. Peu importe ce qui arrive à James Conner, il s'est blessé. Mais il se blesse souvent, tu sais, il est pas assez durable, c'est toujours un questionnement dans son cas. Benny Snell qui a couru avec autorité, on voit qu'il a perdu du poids, il y a un plus de zip dans sa course un peu que l'année passée. Je pense que ça peut être un élément là qui va fortement aider les Steelers de retrouver un peu un vrai porteur de ballon dans le style Pittsburgh, puis devrait gagner bien des matchs cette année, dont celui de la semaine prochaine contre Denver.
Giants contre Chicago.
J'ai les Bears de mon côté. Écoute, la ligne à l'attaque des Giants est tellement horrible présentement que je peux pas faire autrement. Les Bears all the way.
Oui, il y a un certain Khalil Mack qui devrait s'amuser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un peu comme TJ Watt hier, le contre cette ligne à l'attaque-là, qui est incapable de quoi que ce soit. Pauvre Saquon Barkley. Écoute, il a été plaqué hier, tenez-vous bien, 11 fois derrière sa ligne de mêlée. 11 fois avant qu'il franchisse la ligne de mêlée. Il n'y a aucune chance de jouer dans ces conditions-là. Donc, les Bears devraient sensiblement infliger les mêmes sévices.
San Francisco contre les Jets.
Un peu le même principe. Je pense que la défensive et la ligne défensive des Giants, des Niners, vont infliger un gros supplice aux Jets de New York. Victoire des Niners qui vont retrouver le sentier de la victoire.
Oui, Niners, on passe tout de suite à un autre appel.
Washington, Arizona.
J'ai les Cards, c'est une de mes équipes surprises. Ils vont être 2-0. Kyler Murray va se sauver. Washington va se trouver que Carson Wentz était plus facile à plaquer que Kyler Murray derrière sa ligne de mêlée.
Steph?
Oui, même résultat. Les Cardinals vont l'emporter. T'sais, j'ai des doutes à long terme concernant leur défensive, mais contre Washington, je pense pas que c'est un problème là, dans l'immédiat. Donc, victoire des Cardinals.
Kansas City contre les Chargers.
Victoire des Chiefs. C'est tout simplement que le plan de match est tellement conservateur du côté des Chargers. À un moment donné, contre les Chiefs, il faut voir que tu rouvres un petit peu l'attaque, puis il va y avoir des erreurs qui vont se produire. Les Chiefs mettent tout simplement trop de points sur le tableau indicateur.
Baltimore contre Houston. Ah ben, vas-y Stéphane, excuse-moi, les Chiefs contre les Chargers.
Je seconde Jean, il n'y aura pas de surprise. Puis concernant le fait que les Chargers doivent absolument ouvrir le jeu, je suis tout à fait d'accord. Contre les Chiefs, tu ne peux pas t'en sortir avec un plan de match conservateur. Le gros problème, c'est que tu as Tyrod Taylor pour ouvrir le jeu. Puis que ce soit à Buffalo, que ce soit à Cleveland, que ce soit à Los Angeles, Tyrod Taylor n'ouvre pas le jeu. C'est le type de carrière qu'il est. Il est correct, mais il est limité dans ses moyens. Donc, tu peux pas espérer là, marquer 30-35 points face aux Chiefs avec un carrière comme lui. Ce serait une énorme surprise si c'était le cas.
Lamar Jackson contre Deshaun Watson en fin de semaine. Qui va sortir gagnant de ce duel-là?
Moi, je trouve que c'est un des bons duels du week-end, honnêtement. Houston a beaucoup approuvé défaite là, face aux Chiefs qui n'ont pas super bien joué. Baltimore, un match nettement plus facile que ce qui s'attendait, je pense, face aux Browns. Je pense que ça va être un match un peu plus relevé, mais Lamar Jackson va trouver une façon de l'emporter. Victoire des Ravens, un club plus physique, tout simplement, que Houston.
Oui, puis on parle beaucoup du duel de corps arrière. C'est normal, là, c'est vendeur de Sean Watson, Lamar Jackson. Mais je pense qu'en bout de ligne, les Ravens vont courir dans la gorge des Texans. Il y a non seulement Mark Ingram qui peut faire le travail, mais maintenant, tu as la recrue J.K. Dobbins qui est impliquée déjà dans le plan de match des Ravens la semaine passée. Une autre recrue que j'ai adorée du côté des Ravens, le secondaire Patrick Queen, qui a fait un match formidable à ses débuts, 8 plaqués, 1 sac du corps. On a été le chercher d'abord et avant tout pour ses habiletés en couverture de passe, mais c'est un gars qui est capable d'aller mettre la pression aussi. Je pense que les Ravens vont l'adorer, puis il devrait causer des ennuis là, chez les Texans. Donc, victoire des Ravens pour moi.
Le match du dimanche soir, les Pats qui voyagent à Seattle et arrivent là comme négligés. Est-ce que les Pats vont surprendre les Seahawks à Seattle, Jean?
Il y a une raison pourquoi ils sont négligés, parce qu'ils sont moins bons, tout simplement. C'est une victoire pour moi des Seahawks. Ça ne sera pas nécessairement facile, parce que je pense que cette année, ce qu'on a vu aussi des Pats, c'est qu'ils ne se battront pas eux-mêmes. Un club qui court beaucoup, ça passe vite aussi à l'horloge. Le temps va être très, très rapide. Ça va être important pour les Seahawks de prendre les devants, mais s'ils prennent les devants, ils devraient être en mesure de battre les Pats. Puis je pense que Russell Wilson va faire quand même la différence dans ce match-là.
Steph?
Oui, puis moi, c'est un élément que j'ai adoré du côté des Seahawks. Cette semaine, écoute, pour une rare fois, on a dit à Russell Wilson, prends le ballon dès le début, là, puis opère ta magie. Plutôt que, écoute, on a un jeu au sol fiable, on va l'établir, puis en fin de match, quand on aura besoin d'un petit miracle, ben tu seras toujours là, mon cher Russell. J'ai aimé qu'on attaque dès le départ les Falcons. Russell Wilson, ça fait longtemps qu'il a démontré qu'il est capable de prendre l'équipe sur ses épaules. Je sais pas si c'était une anomalie cette semaine ou c'est une nouvelle tendance, mais écoute, si c'est une nouvelle tendance, ils ont l'homme de la situation, il faudrait pas s'étonner que Russell Wilson, dans un cas comme ça, récolte des statistiques qui lui permettent d'être considéré pour le titre de MVP. On est loin, là, il reste encore en masse de temps, mais écoute, c'est une rare opportunité pour lui de montrer là qu'il peut carrément transporter l'équipe et non être le corps arrière qui fait les beaux jeux en fin de match, mais qu'on s'appuie d'abord et avant tout sur le jeu au sol. Face aux Patriots, si on garde la même approche agressive, j'ai l'impression que ça va payer, même si les Pats sont équipés là, du côté de la tertiaire, puis qu'on sait, c'est revirement par-dessus revirement là, à toutes les années. Ça a commencé comme ça encore cette semaine. J'ai l'impression que les Seahawks vont déjouer ce plan de match-là et puis qui vont être 2-0 dimanche soir.
Et on se déplace lundi soir alors qu'aura lieu le match les Saints contre les Raiders de Las Vegas.
C'est un match qui est difficile à prévoir, honnêtement. J'ai l'impression qu'il va se compter beaucoup de points. Par des choses, c'est, de ce que j'ai vu de la défensive des Raiders, c'est vraiment pas à point encore quand tu donnes autant de points, je pense, à la Caroline.
Puis leur attaque est quand même dangereuse.
Exact, leur attaque est dangereuse. Du côté des Saints, ben, un peu plus équilibré. Mais je pense que l'attaque va se réveiller nettement plus qu'en fin de semaine que ce qu'on a vu là, contre les Bucs. Je m'attends dans un match très offensif, peut-être un 34-28. Je pense que les Saints vont s'imposer à Vegas dans le nouveau stadium, le Allegiant Stadium à Las Vegas, que je trouve absolument incroyable. Je trouve ça tellement plate qu'il n'y ait personne dedans.
Steph?
Ouais, c'est un bon point. Puis même chose, on a vu le stade des Rams dimanche soir, qui a l'air complètement fantastique, mais je regardais ça puis je me disais, OK, à 5 milliards, il a besoin d'être beau. Là. s'il fallait qu'il soit pas beau, là, ce serait décevant. Pour en revenir à ce match-là, écoute, comme Jean dit, il va avoir beaucoup de points. Les Raiders, une chose que j'aime, ils ont une très bonne ligne à l'attaque.
OK, merci Steph. On fait une pause et après ça, la chronique au bar. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa. De retour à la zone payante, on termine l'émission, les gars, avec vos punitions. Qui vous envoyez au bar, Steph?
Donc, les Lions, pour l'ensemble de l'œuvre, je les condamne à aller au bar, mais pour faire du communautaire, donc ils n'ont pas le droit de boire. Tu sais, il faut pas qu'il y ait du fun non plus après ce qui est arrivé. Donc, ils vont aller là, ils vont signer des autographes, ils vont rencontrer les fans, puis surtout, ils vont s'expliquer, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui cloche au quatrième quart. Faut trouver des solutions, puis c'est pas en prenant 12 consommations qu'ils vont trouver les solutions. Là, ça urge, il faut trouver quelque chose. Donc, condamnés à aller au bar, mais pas pour avoir du fun. Ils vont aller faire du social puis essayer de trouver des solutions.
Tout
donc,
en gardant une distanciation, bien sûr.
Oui, c'est ça. La distanciation, le masque, puis pas de consommation sont
Jean?
Écoute, plusieurs clients potentiels au bar, mais j'ai choisi Mark McCarthy. Il y en a qui vont dire, mais pourquoi? Mais écoute, j'ai vraiment pas aimé son appel sur un 4 et 3, il reste 8 minutes et demie. Puis je sais que c'est la nouvelle tendance dans la NFL. Écoute, vas-y, puis il n'y a pas de problème. Mais écoute, tu perds par 3. Pourquoi pas égaliser avec un botté de placement? Ça aurait été un botté de placement de 35 verges que normalement tu devrais mettre dedans. Puis le match est égal. Puis après ça, ben, tu sais, pour moi, c'est pas manquer d'agressivité à ce moment-là. Puis lui, il s'est pas posé de question. Il est allé, ils ont été short. Puis honnêtement, je trouve que ça a changé la complexité. Je trouve qu'on se pose un peu trop des fois des questions quand le jeu simple, c'était tout simplement d'égaliser la rencontre. Puis il y a beaucoup de situations. Je suis un fan d'y aller. Mais cette situation-là, pour moi, c'était plutôt normal de prendre le field goal. Puis écoute, vu que c'est pas une décision si controversée que ça, je condamne Mark à aller juste prendre une bière puis penser à ses affaires. Fait qu'une petite bière au bar, tranquille, avec son coach d'unité spéciale, pensez à vos affaires. revenez. Mais ça reste que les trois points qui sont pas allés chercher là, c'est les trois points qui leur ont manqué en fin de match pour gagner contre les Rams. Ou égaliser, du moins.
OK, merci les gars. Merci pour la semaine. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de La Zone payante. Bon dimanche de football, en espérant que ça sera toujours pas aussi beau dehors pour qu'on puisse regarder le football sans culpabilité. Bonne semaine, les gars.
Beau temps, mauvais temps, on va regarder ça.
Okay. Yes, sir.
Ciao, merci d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine. Cube Radio.